On est tous plein de petites entreprises qui travaillent ensemble dans une espèce de grand assaut. Du coup, ça permet d'avoir que les bons côtés, finalement, du travail en commun. Donc c'est vraiment, vraiment très, très chouette. Ouais.
Bonjour à tous. Ça dépote est un podcast où l'on rencontre des personnes inspirantes qui peuplent la serre. Mais avant tout, la serre, c'est quoi ? Imaginez-vous à deux pas du bourg de Plougastel. Vous entrez par un petit portail blanc, devant vous un jardin avec une belle pelouse et un joli magnolia. Vous marchez une dizaine de mètres et vous tombez sur une maison. Vous passez ces deux portes, l'une blanche et l'autre en bois. Vous y voilà, bienvenue à la serre. Bienvenue dans notre espace de coworking, mais aussi ce tiers-lieu où germent de nouvelles idées. Je m'appelle Clément Huy, je suis photographe et vidéaste, et aujourd'hui je rencontre Sophie Vrignot, créatrice de site internet à la serre. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Si je résume rapidement ton parcours, tu as commencé en tant qu'ingénieur commercial en solutions informatiques, ensuite consultante immobilière en entreprise, chef de projet web, et ensuite tu t'es mis depuis 7 ans en indépendante avec l'agence Mauve, où tu fais du conseil en marketing internet, des sites internet. Est-ce que du coup tu peux me parler de tout ce parcours, parce que tu as fait quand même beaucoup de choses différentes.
Comment j'en suis arrivée là ?
Voilà, c'est ça.
Alors effectivement, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans une SS2I, une société de services et d'ingénierie informatique. D'abord en tant qu'ingénieur commercial, ensuite en tant que chef de projet. Et au bout d'une vingtaine d'années, cette société a décidé de cesser cette activité-là. Et donc, elle a vendu notre contrat de travail à une autre entreprise qui était à Nantes, qui d'abord nous a dit « vous allez rester ici à la pointe de la Bretagne ». Et puis au bout de quelques mois, années, deux ans et demi, nous a dit « finalement, c'est pas très pratique de gérer des gens à Brest quand on a un siège à Nantes, vous allez revenir à Nantes ». C'est là que j'ai dit, ben non, moi, j'irai pas à Nantes parce que je suis très attachée à la pointe de la Bretagne. Donc, j'ai quitté cette entreprise et j'ai fait quelque chose de très, très différent. L'un de mes clients était un promoteur immobilier. Quand il a su que je quittais cette entreprise dans laquelle j'étais depuis 20 ans et dans laquelle j'ai travaillé avec lui, il était client depuis peut-être une dizaine d'années à peu près. Il m'a proposé de venir travailler avec lui parce qu'il voulait développer une activité d'immobilier d'entreprise. Donc il pensait que j'avais des choses à apporter à son activité et puis l'aider à mettre ça en place. Donc du coup, c'est comme ça que je suis devenue consultant en immobilier d'entreprise.
Donc, complètement différent. Est-ce que c'était vraiment si différent que ça ?
Alors le métier était très différent, mais les clients étaient à peu près les mêmes. En fait, puisqu'avant, j'installais des solutions informatiques où j'informatisais des grandes entreprises, des grands comptes. Donc, je leur proposais des solutions de serveurs de matériel informatique, d'infrastructures informatiques et de réseaux. Donc, je gardais les mêmes clients. Simplement là, je leur vendais des locaux pour qu'ils s'implantent. C'était plus simple, finalement. Il y avait moins de technicité intégrée, donc je gardais des interlocuteurs que je connaissais.
C'était un peu plus commercial ou... Non, même pas... Non, parce que du coup, tu dis qu'il y a moins de technique, et donc je me dis que ça doit être plus commercial aussi, non ?
Oui, c'est très différent. L'immobilier, c'est vraiment un monde à part. Je ne suis pas vraiment retrouvée dans les valeurs de l'immobilier. Je venais de l'informatique où tout était extrêmement carré, plutôt rigide, très procédure, etc. Et je suis arrivée dans l'immobilier où là, c'était vraiment toujours dans de la négociation, toujours dans des petits arrangements avec ce qu'on pouvait faire, voire avec la légalité. Et moi qui ai un esprit très, très cartésien, ça, c'était un petit peu difficile pour moi. Cependant, j'ai adoré cette expérience parce que, je pense que le meilleur patron que j'ai eu de toute ma carrière, c'était dans cette entreprise-là. Et voilà, j'ai travaillé avec quelqu'un qui était vraiment exceptionnel. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Ouais, l'immobilier, ce n'était pas tout à fait pour moi. Donc au bout de 3 ans, un petit peu moins de 3 ans, je lui ai demandé si on pouvait trouver un accord pour que je parte. Et j'ai repris mes études. suite à cette expérience-là.
Ok.
Voilà, ouais. Entre-temps, ça avait mûri parce que quand j'étais dans cette entreprise, alors comme je venais du monde de l'informatique, assez vite, on m'a donné toutes les missions qui avaient aussi à voir de près ou de loin avec l'informatique. Donc s'il fallait connecter le copieur en réseau, c'était aussi pour moi, hein. Je venais de l'informatique.
Tu étais un peu responsable informatique.
Ouais, c'est ça. Fallait aider la secrétaire à faire des fusions de documents dans Excel. C'était aussi pour moi parce que je venais de l'informatique, donc forcément. Donc toutes les missions. Et donc il y avait aussi 3 sites web. Donc mon patron, enfin, il gérait 3 sites web pour ses différentes activités. Donc il m'avait aussi confié la mission de gérer, d'administrer, d'enrichir ses sites web. Et c'est vraiment ce que j'ai le plus adoré. Voilà, et donc je me suis dit, je vais en faire mon métier. Et peut-être que vraiment asseoir les compétences que j'ai pu acquérir sur le tas, eh ben, si je faisais valider ça par une vraie formation certifiante et un diplôme d'État, peut-être que je serais un peu plus crédible, quoi.
Ouais.
Donc voilà comment j'ai décidé en fait, de reprendre mes études.
Ok, donc études de conception de site internet.
Exactement, licence pro de marketing internet et conception de site.
Ok, voilà. Donc tu t'es retrouvée à l'école donc, ou c'était en formation à distance
Non, c'était en présentiel. Ah. C'était en présentiel en 2015. Donc effectivement, je me suis retrouvée en licence pro avec de jeunes étudiants. Aussi, enfin, il n'y avait pas que des jeunes étudiants, il y avait aussi des gens en reconversion, hein. Mais ce n'était pas la majorité. Donc, les soirées étudiantes le jeudi, enfin, plein de trucs que j'avais un peu oublié depuis 23, 24 ans. Et j'ai adoré, c'était vraiment super sympa.
Ouais, c'est bien,
c'était
ça,
une année très chouette.
Ça retourne un peu, dans la jeunesse.
Ouais, exactement. Ça rappelle plein de trucs. C'était vraiment chouette. Ça m'a fait beaucoup de bien cette année de coupure aussi, parce que quand on est dans le monde du travail depuis une grosse vingtaine d'années, voilà, on s'est un peu éloigné de ça. Et ça donne une bouffée d'air frais, en fait, de reprendre des études comme ça. Donc, ouais, à tout point de vue, c'était vraiment super intéressant. Et puis, en plus, au final, j'ai eu mon diplôme. Donc, voilà, mission accomplie.
C'était l'objectif.
Ouais. C'était l'objectif. Donc, ouais, mission accomplie. Et puis, donc, je me suis installée suite à ça.
Ok, c'est là que tu t'es lancée à ton compte
Une petite expérience en tant que salariée, mais en fait, j'avais vraiment envie de m'installer. C'était un peu pour enrichir, voilà, d'un point de vue pratique aussi, ce que je faisais. Mais ouais, j'avais déjà décidé que j'allais m'installer et puis c'était le bon moment. Voilà, j'étais tout à fait décidée à partir dans cette voie-là, ouais.
Et du coup, donc ça a créé Agence Mauve. Pourquoi déjà Agence Mauve ?
Alors, il y a 2 raisons, en fait, très différentes. La première, c'est que... c'est pas un ordre, hein, quand je dis la première ou la deuxième. C'est pas un ordre d'importance. Mais c'est une des raisons, c'est que je voulais trouver quelque chose qui n'existe pas et qui soit facilement référençable. Il fallait aussi que je puisse le communiquer par téléphone sans avoir à épeler le truc. Et puis, l'autre raison, c'est que le mauve, c'était la couleur préférée de ma grand-mère. Et que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Donc, c'était aussi de donner une valeur humaine, en fait, à cette entreprise. Donc, voilà.
À quoi ça correspond, la stratégie e-business Donc, tu fais des sites Internet, mais est-ce que tu fais autre chose aussi, en plus?
Oui, j'accompagne les gens dans la stratégie à mettre en place pour leur site. Souvent, ce sont, par exemple, des commerçants qui ont une boutique physique et qui se disent, tiens, on va vendre en ligne pour compléter, peut-être... les ventes, enfin pour compléter le chiffre d'affaires ou développer un petit peu le chiffre d'affaires, simplement c'est pas leur métier. Et tant qu'à investir dans un site de e-commerce, autant que ce soit quelque chose de pertinent. Donc on commence en général par une vraie étude marketing, comme on le fait quand on ouvre un magasin physique. On fait la même chose pour son site internet, c'est qu'on va faire une étude de marché en regardant qui sont les clients, où ils sont, qu'est-ce qu'ils cherchent, on fait des personas exactement comme pour un magasin physique, donc quel âge a notre cœur de cible, quelle est leur profession, quelles sont leurs habitudes. On regarde aussi qu'est-ce qu'on a comme concurrent, parce que la stratégie qu'on doit déployer n'est pas la même. Si on est sur un marché de niche avec peu de concurrents, on a un peu moins d'efforts à faire dans son référencement naturel, par exemple. Si on est sur quelque chose de très concurrentiel, on va devoir... peut-être travailler sur de la longue traîne, c'est-à-dire sur vraiment des spécificités d'abord, au moins pour développer sa notoriété, pour bien se faire référencer. Donc voilà, tout ça, c'est à prendre en compte. Donc ouais, avant de partir vraiment sur la création du site, il y a un gros travail qu'on fait souvent pour bien préparer, pour être sûr que le site soit pertinent. Parce que l'objectif de faire un site, c'est quand même voilà, de le rentabiliser assez rapidement. Donc la préparation, c'est extrêmement important. Ouais. Alors, il y a tout le reste, toute la réflexion sur eh ben, le nom de domaine. Qu'est-ce qu'on va prendre comme nom de domaine? Ça va dépendre de ce qu'on vise comme marché. Est-ce qu'on veut travailler localement? Est-ce qu'on veut travailler nationalement? Est-ce qu'on veut travailler internationalement? Ça va déterminer, effectivement, on ne va pas prendre un .com si on cible que la Bretagne, ça rime à rien. Par contre, si on envisage un jour de se développer à l'international, eh ben, un .com, ça a tout son sens. Donc, on va, comme ça, évoquer tous les points. Quels sont les arguments qu'on va développer? Qu'est-ce qui nous différencie de nos concurrents? Qu'est-ce qu'on met en évidence? Quel langage on va utiliser? Si on s'adresse à des adolescents, par exemple, on ne va pas utiliser le même langage sur son site que si on s'adresse à des seniors. Enfin, voilà. Donc, on prépare d'abord tout ça. Donc, c'est là où l'accompagnement est important. Ouais. Et puis ensuite, effectivement, je fais le site. Ouais. Et puis, une fois que le site est fait, je le maintiens. Parce que pour qu'il reste efficace, il faut qu'il soit maintenu.
Donc, tu t'occupes des mises à jour et tout, et en même temps, tu peux faire des articles, non?
Oui, je peux aussi animer le site. C'est ce qu'on appelle animer le site, c'est-à-dire publier des contenus pour faire en sorte que le site reste bien référencé et puis que les internautes soient toujours intéressés par son site.
Toi, tu utilises principalement WordPress? Oui.
Moi, j'ai fait le choix de travailler avec un CMS qui s'appelle WordPress, qui est aujourd'hui le CMS le plus utilisé. Je crois qu'en 2022, il y a à peu près 60% des sites qui ont été mis en ligne en 2022 qui l'ont été sous WordPress. Donc, c'est quelque chose de standard. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Eh ben, d'abord parce que les clients qui travaillent avec moi, ils ne sont pas verrouillés, ce n'est pas un système propriétaire. Donc, ils sont libres, une fois que le site est fait, après d'aller travailler avec n'importe qui. Ils arriveront toujours à trouver des agences qui maîtrisent WordPress. Donc, moi, je ne les verrouille pas. S'ils continuent à travailler avec moi pour la maintenance, pour l'animation du site, c'est parce qu'ils le choisissent. Donc, on est sur du standard. Il n'y a aucun engagement. Et puis, c'est aussi parce qu'il y a une grosse communauté, du coup, de WordPress. Donc, ça veut dire que le site est à jour. Il y a énormément de possibilités, par exemple, d'extensions, de possibilités d'interface avec des logiciels de compta, de facturation, etc. Comme c'est quelque chose de très répandu, en fait, il y a beaucoup de solutions qui existent pour... beaucoup de choses qui existent pour se connecter, en fait, avec son WordPress, pour étendre ses fonctionnalités.
Je pense que les possibilités sont presque infinie, c'est il y en énorme. A tellement.
C'est et énorme. C'est vrai que... Il y a plein de solutions qui s'interfacent aujourd'hui avec WordPress, avec les grands standards. On va dire il y a quatre grandes solutions standards, en fait, c'est WordPress, PrestaShop, Drupal, Magento. Et avec ces quatre solutions-là, on a plein de choses qui s'interfacent. Après, les choix sont un peu différents. WordPress, ça s'adresse à des petites moyennes entreprises, il y a assez peu de grandes entreprises. Là, on a par exemple des solutions comme Magento, par contre, là, qui ciblent des grandes ou très grandes entreprises qui ne sont pas du tout adaptées à des petites entreprises. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a plusieurs solutions.
Et justement, toi, tu travailles principalement... Alors, c'est ton type de client, finalement, ça va être des petites et moyennes entreprises.
Oui, tout à fait. Je travaille... plutôt avec des indépendants, des TPE, quelques PME, des associations aussi, et puis des collectivités, des mairies, des communautés de communes. Je travaille avec quelques particuliers. Ce sont principalement des gens qui ont des locations saisonnaires.
Ok.
Bah donc, tu as fait des sites pour louer, des meublés de tourisme sur la côte en Bretagne.
Je vois.
Il y en a quand même pas mal ici.
Ah bah là, il y en a bien.
Ouais, donc, voilà. Sinon, pas de particulier à part ces cas-là, en fait.
Okay. Ouais. Et alors, j'ai noté que tu étais aussi fondatrice de Terre de Réseau.
Oui.
Et donc, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur Terre de Réseau? Je sais que tu adores le réseau en plus.
Oui, j'adore le réseau. Terre de Réseau, c'est une association, loi 1901, qui regroupe des chefs d'entreprise ou des cadres salariés dans des entreprises. Et qui se réunissent pour partager des actualités économiques, pour s'entraider, pour se former, sur des sujets qui touchent tous les chefs d'entreprise, et puis aussi pour partager des problématiques qu'on peut avoir les uns et les autres, échanger. Il y a des entrepreneurs qui ont une grande expérience, qui ont des entreprises depuis plus de 20 ans. Il y a d'autres qui sont de jeunes entrepreneurs et qui sont contents de recevoir des conseils de gens plus expérimentés. Donc c'est un peu tout ça qu'on met dans Terre de Réseau. On participe aussi à des événements sur le département, des salons, des forums d'entreprises, des choses comme ça. Donc ça nous donne une visibilité à la fois en tant que Terre de Réseau et aussi au niveau des entrepreneurs qui y participent.
Okay. C'est quoi qui t'a motivé à la création justement de ça? Pour toi, ça manquait ou c'est parce que tu voulais faire ton propre collectif?
Alors, je suis cofondatrice puisqu'on est trois fondateurs de Terre de Réseau, trois cofondateurs. On voulait... Alors, il existe déjà beaucoup de réseaux, en particulier sur le Finistère. Je crois que c'est un département où il y a énormément de réseaux. Mais on ne trouvait pas exactement ce qu'on voulait. Il y a des réseaux féminins, par exemple, exclusivement féminins. Il y a des réseaux de chefs d'entreprise qui accompagnent des jeunes entrepreneurs. Il y a des réseaux de gens qui cherchent des emplois. Mais on ne trouvait pas exactement ce qu'on voulait. Donc on s'est dit, on va le créer, nous, le réseau qu'on veut, et on va y mettre exactement ce qu'on a envie. On ne veut pas un truc trop sérieux. Donc on veut de la convivialité, on veut pas trop se prendre la tête. Il faut que ce soit quand même des moments un peu sympas, le soir après le boulot, quand on se retrouve, qu'on puisse apprendre, échanger dans la convivialité. Donc c'est toujours... C'est toujours le soir, les réunions, c'est axé sur des échanges vraiment pas très formels, des choses très simples.
C'est plus passer un bon moment. Et...
Exactement, ouais. C'est plus passer un bon moment, sachant qu'on met quand même, dans toutes nos réunions, il y a toujours un atelier de montée en compétences. Donc c'est souvent un des adhérents qui partage ce qu'il sait faire. Par exemple, moi j'ai animé un atelier sur le référencement. Comment on fait pour que son site soit bien référencé? Ou un autre des adhérents a animé un atelier sur la cybersécurité. Comment on fait pour que les serveurs de son entreprise soient protégés au maximum? Enfin, au moins, il n'y a pas de 100%, mais comment on fait pour que ce soit protégé, etc. Donc on partage nos compétences comme ça lors de réunions. Et puis, en général, ça se termine par un moment convivial autour d'un verre.
Ok, sympa.
Très.
Et on va parler d'une autre association, c'est la SER. Tu es, si je ne me trompe pas, tu es depuis la création.
Exact, je fais partie des 10 membres fondateurs de la SER.
Et donc, justement, je me suis dit, c'est l'occasion de demander à une personne, une cofondateur de l'asso, comment ça s'est fait, comment ce projet est né.
Au tout début... C'est le maire de Plougastel qui un jour a dit à une des cofondatrices, je vais avoir un local là disponible. Si ça vous intéresse toujours pour créer un espace de coworking, faites-moi une proposition. Et puis du coup, Ninia a partagé sur un réseau qui s'appelle Femmes de Bretagne cette proposition. En disant, s'il y a des gens intéressés, on se réunit au Frésia. C'est un bar, un café à Plougastel. On se réunit au Frésia, il y a une date. Toutes les personnes intéressées, venez, on va voir si on peut monter quelque chose. Et c'est parti comme ça. On s'est retrouvés à, je crois, une vingtaine à une réunion. En tout, je crois qu'elle avait eu une soixantaine de contacts. Alors au départ, il n'y avait que des femmes, puisqu'elle avait partagé sur des réseaux qui étaient des réseaux économiques féminins du Finistère. Donc au départ, il n'y a que des femmes qui se sont manifestées. Et puis on s'est dit, banco, on se réunit, on va voir le local qui nous convenait, on dit à la mairie qu'on y va, et puis on se retrousse les manches et on rénove le truc. Parce que ce local qu'ils nous ont proposé, c'était quand même un peu vieillot à l'intérieur, pour être honnête.
J'imagine bien la maison dans son jus, quoi.
Mais complètement, c'est ça, en fait. C'est que cette maison avait été achetée par la mairie, préemptée par la mairie lors d'une vente, d'une succession, en fait, et elle était restée tout à fait dans son jus. Donc, on a eu des dons de peinture par des entreprises, on a eu aussi du budget par la mairie et par la métropole de Brest pour faire les travaux. Et donc, on a fait un chantier participatif à l'été 2019 pour rénover toute la maison. Donc, juillet et août, on était dans la peinture, dans le lino, on a refait du sol au plafond la maison. Et en septembre, on s'est installé là.
Ah ouais.
On était 10 au début. Et puis, on s'est dit, maintenant, on va chercher des coworkers. Donc, on ouvre l'espace à tous les gens. On a communiqué sur les réseaux, sur le bulletin communal de Plougastel. Et les gens sont arrivés. La maison s'est remplie comme ça de vie.
Voilà. Ah, c'est beau parce que, en plus, du coup, vous avez donné du temps pendant 2 mois, finalement, à travailler sur la maison. Et en fait, c'est un peu votre... ça a fait un peu le... Ça rajoute de l'âme, je pense.
Eh bien, ça a aussi permis de bien se connaître, parce que finalement, on ne se connaissait pas. On est arrivé là par cette annonce qu'avait partagée Ninia, sans se connaître, hein, tous d'horizons différents, de métiers différents, des profils aussi différents. Certains étaient en création d'entreprise, d'autres avaient déjà des entreprises, travaillaient chez eux. Enfin, voilà, on était dans des métiers, vraiment des horizons très différents. Et du coup, de faire ce chantier ensemble, ça a créé aussi une forte amitié en fait, entre nous, parce qu'on a bossé, il y a eu quelques galères, enfin voilà, ça crée des liens. Et ouais, ça a soudé, du coup, ça nous a renforcé aussi, je pense, pour lancer ce projet.
En plus, du coup, après, vous avez passé le... Il y a eu le Covid, plus tard.
On a eu des épreuves.
Ouais, c'est ça, il y a eu des épreuves. Et finalement, aujourd'hui, elle est... ouais, ça s'agrandit. Enfin, avec 40 années et tout, ça a vachement évolué.
Oui, au lieu, et effectivement, ces épreuves, au lieu de marquer un coup d'arrêt à l'assaut, parce que ça aurait pu être le cas aussi finalement, puisque la serre a été soumise à fermeture, hein, c'était la loi, on a dû fermer et rester chacun à la maison. On était une asso assez jeune encore, donc oui, ça aurait pu être une épreuve qui aurait pu marquer un coup d'arrêt, en fait pas du tout. Dès qu'on a pu, on s'est retrouvés, on a relancé plein de projets. Et en fait, l'asso est reparti de plus belle. La serre a eu de nouveaux adhérents. Au contraire, il y a des gens qui, du coup, dû au confinement, ont cherché des espaces pour télétravailler, pas complètement isolés. En plus, à Plougastel, il y a des endroits qui n'avaient pas beaucoup de réseau. Donc, à la serre, on avait
du réseau. Il y avait la fibre. Ouais. Et voilà.
Donc, il y a plein de gens qui sont venus. Et finalement, au contraire, ça a donné un super essor, finalement, cette épreuve du Covid. Et l'asso est reparti de plus belle. Ouais.
Et aujourd'hui, du coup, pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté vraiment, la serre en...
Alors, moi, quand j'ai commencé à travailler, j'étais salariée pendant plus de 20 ans, on en a parlé tout à l'heure, et quand j'ai créé mon entreprise, les 6 premiers mois, j'ai travaillé de la maison, parce que, ben voilà, je lançais ma boîte, ça a été dur. J'avais pas de collègues, j'avais jamais travaillé sans collègues, j'ai toujours travaillé dans des entreprises où il y avait au moins une trentaine de salariés, enfin, j'avais des collègues, et là, je me retrouvais seule. Au bout de 6 mois, c'était pas possible, quoi. Et donc, j'ai au départ trouvé un autre espace de coworking à Landy, puisque c'était en 2016 et que la serre n'existait pas. Et donc, moi, le fait d'être en espace de coworking, mais ça permet de retrouver cette ambiance de travail. On a des collègues pour boire des cafés, pour manger à midi, pour partager parfois les petites galères professionnelles qu'on a. On a échangé sur plein de sujets pratiques, sur les statuts, l'ARC Pro. Enfin, voilà, on est plusieurs à être des salariés, à avoir une longue expérience de salariat, mais très peu d'entrepreneuriat au moment où on se lance. Et donc, on a partagé plein d'astuces, plein de choses qu'on avait expérimentées aussi. Donc oui, c'est tout ça. Puis c'est quand même aussi beaucoup de convivialité. On peut pas tout raconter, mais des soirées, des séminaires, c'est-à-dire des séjours hors les murs pendant plusieurs jours. On a partagé vraiment beaucoup de choses. Ouais.
Donc, non, mais pour le coup, c'est vrai que moi, j'ai rejoint la serre justement aussi. Et j'ai cette sensation d'avoir vraiment des collègues et plus... et c'est vrai que... On travaille pas pour... Enfin, c'est des collègues sans le côté travail. On travaille ensemble si besoin, mais on reste quand même indépendant. Et je trouve que c'est le bon... Le bon écosystème, on va dire, je trouve.
Mais oui, c'est tout à fait ça, en fait. On est tous plein de petites entreprises qui travaillent ensemble dans une espèce de grand asso, enfin, qui regroupe un peu tout, toutes ces petites entreprises. Et ça fait qu'on a le côté convivial et les échanges entre nous. Et pour autant, on est chacun décisionnaire et autonome dans notre entreprise, dans notre propre entreprise. Mais oui, du coup, ça permet d'avoir que les bons côtés, finalement, du travail commun. Ouais. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très chouette, ouais.
Je crois que c'était Clémence qui m'en a parlé, qui me disait que, par exemple, toi, tu avais une méthode de productivité, enfin, entre guillemets, par exemple, tu regardais que 2 fois tes mails par jour.
Eh bien, Ouais, encore, alors, encore les bienfaits de la serre. Il y a quelques années, alors je ne sais plus, peut-être 2-3 ans, justement, dans les problématiques communes qu'on avait, on s'est dit, mais la gestion du temps, c'est une cata, quoi. C'est vraiment une catastrophe, on est tout le temps tous débordés. Les formations, gestion du temps, ça coûte cher. Peut-être que si on se regroupait à plusieurs et qu'on faisait venir un formateur, hein, on pourrait mutualiser le coût de cette formation et on serait plus efficace au final. Et c'est ce qu'on a fait, on s'est regroupés, on était sept donc adhérents de la SER, sept entrepreneurs. On a fait venir un formateur en gestion du temps sur une journée et il nous a fait une formation vraiment personnalisée en lui expliquant voilà nous quelles sont nos problématiques, voilà où on bosse, voilà comment ça se passe nos journées. Et ça, c'est un des trucs que c'était une femme, la formatrice nous a appris, c'est pour pas être pollué pendant la journée, effectivement, quand on est sur des métiers où on a besoin de concentration, et le développement web, ça, c'est un métier où on a besoin de concentration, il ne faut pas se laisser interrompre toute la journée, sinon on n'avance jamais, on perd à chaque fois 10 minutes ou un quart d'heure à se remettre au boulot. Donc, les coups de fil, les mails, on laisse aller sur le répondeur ou on laisse les mails dans la boîte mail et on traite ça à midi, à 14h, à 18h. Voilà. Et là, on regarde si c'est important et qu'on peut y répondre rapidement. On traite, sinon, on planifie pour le lendemain le moment où on va traiter et où on va répondre. Et ce qui fait que le reste du temps, on est beaucoup plus productif parce qu'on n'est pas perturbé. Donc ça, c'est...
C'est toujours, en fait, finalement, c'est la planification vraiment des tâches pour pas avoir... Ça sorte comme ça et on sache même plus où on va. Ou...
Ben, moi, j'avais un peu tendance au début, d'abord à me dire que pour vraiment que les clients soient satisfaits, il fallait que je réponde tout de suite parce que c'est peut-être là-dessus que c'était important pour eux. Et donc, dès que j'avais une demande, je rappelais tout de suite, je traitais. Du coup, parfois, c'était un petit développement, un petit truc à faire. Ça me prenait un quart d'heure ou une demi-heure. Et finalement, j'étais en permanence interrompue. Je papillonnais sur plein de choses dans ma journée. Je traitais plein de petits trucs, mais j'avançais pas sur les gros projets de fond. Et assez vite, je me suis dit, non, finalement, c'est pas comme ça qu'il faut que je bosse. Il faut que les clients, ils acceptent. Et ça se passe très bien, hein. Ils acceptent très bien que je les rappelle que le lendemain ou que je leur dise « Ok, je prends en compte votre demande et je vais la traiter tel jour à tel moment ». Finalement, une fois que je me suis imposé ça à moi, ça se passe très bien, tout le monde est content. C'est juste moi qui avais l'impression que les clients ne seraient pas contents. Mais eux, ça ne leur pose aucun problème quand je leur dis à quel moment je vais traiter le truc. Si ce n'est pas immédiatement, mais qu'ils savent quand ça va être fait, ça va très bien finalement. Et en productivité, oui, c'est beaucoup plus efficace comme ça, ouais.
Bah en plus, je pense que ça fait aussi, si tu leur dis, tu dis à un client, bah, je vais traiter votre demande à tel jour, telle date. Si tu le fais, finalement, tu fais ce que tu dis et...
Tu gagnes en crédibilité et ce n'est pas du tout un problème pour le client qui ait un petit délai. Après, les petites choses que je peux faire très rapidement, bien sûr que je les fais et j'essaye dans la semaine... C'est aussi ce qu'on a appris en formation, de garder toujours au moins une demi-journée sans rien de prévu à l'agenda, sauf les imprévus. C'est-à-dire une demi-journée qui est consacrée à ces imprévus. Et finalement, elle est toujours remplie dans la semaine, cette demi-journée.
Oui, t'as toujours de quoi faire.
Mais c'est cette petite marge de manœuvre qui fait que du coup, on n'est pas débordé, quoi.
Eh bien, alors ma dernière question avant de faire les petites cartes, c'est dans 2 ans, comment tu te vois ? Enfin, où tu te vois, que ce soit professionnellement ou personnellement, mais...
Eh bien, effectivement, alors, je suis sur un métier qui évolue, enfin, il y a beaucoup de métiers qui évoluent énormément, j'ai un métier qui évolue énormément, c'est chouette, ça fait qu'on ne s'ennuie jamais. Je pense que, techniquement, l'intelligence artificielle aura apporté pas mal de choses dans mon métier. Dans 2 ans, je pense que j'aurai du coup plus de technicité à apporter aux clients et que les tâches un petit peu moins techniques, plus rébarbatives, pourront être traitées par de l'intelligence artificielle en grande partie. Donc, c'est déjà super intéressant aujourd'hui, mais je pense que ce sera encore plus intéressant. Après, physiquement, j'aimerais bien que mon métier évolue un petit peu vers plus de nomadisme. Je passe pas mal de temps déjà à me promener en van. J'ai la chance de pouvoir travailler à distance.
Tu nous as envoyé des photos des fois de toi en train de travailler dans ton van.
Ouais, exactement. Et j'espère pouvoir le faire encore plus c'est de l'organisation après de mon travail. Donc voilà, j'espère pouvoir travailler plus. Je pense que je travaille mieux aussi quand je peux coupler ça de cette façon-là. Donc je pense que tout le monde y gagne, les clients aussi. Moi, j'y gagne en sérénité. Du coup, je pense être plus efficace. Et donc j'espère que continuer dans ce sens, ouais.
On va faire le petit tirage maintenant.
Je suis intriguée.
Ouais.
Alors c'est très joli, hein. Il y a une superbe belle enveloppe bleue.
Ouais, les cartes sont très belles aussi. C'est sur le thème de la mer. Alors, je vais les étaler devant toi. On va les étaler comme ça. Tac. Hop. Je te laisse en choisir une parmi toutes celles-ci. Tu choisis celle qui t'inspire le plus. Voilà. Ok. Alors, tu peux la regarder. Et ensuite, tu vas la décrire à la voix.
Alors, c'est une carte qui représente un voilier. Un petit voilier qui vogue. Et il y a une légende qui dit « Le vent défavorable ».
Ok, ça te fait peur?
Ben non, en fait, parce qu'il faut toujours faire avec son environnement, c'est ça l'adaptation en fait. Hein. Donc oui, il peut y avoir effectivement des choses un peu défavorables, il y en a déjà eu plein, on a parlé un peu des toutes les embûches qu'on a eues ces dernières années, mais ça ne me fait pas spécialement peur.
Ok, donc c'est ça que ça t'inspire, l'adaptabilité, on va dire.
Exactement,
ouais.
Exactement.
Parfois, le vent souffle dans la mauvaise direction et le navire n'arrive pas à avancer. Dans la vie, on a parfois le sentiment que tout va contre nous. Ne serait-il pas le temps de changer de cap ? Alors, la signification, faire beaucoup d'efforts sans en retirer grand-chose, résistance, coup de malchance, échec répété, sentiment de ne pas avancer, plus difficile qu'il ne devrait, mauvaise direction. Ça, c'est quand même négatif.
Carrément.
Alors, au niveau de la signification, là, pour l'énergie du jour, ça va être tu continues d'avancer sans perdre espoir, même quand les difficultés se multiplient.
Ouais. Alors, franchement, professionnellement, c'est pas dans ce climat-là que j'évolue depuis que j'ai créé l'entreprise. C'est plutôt un secteur qui va plutôt bien.
Non, bah après,
c'est un peu à côté, en fait, je sais pas trop. Dans ma vie perso non plus, d'ailleurs, tout va bien.
Tant
voilà,
mieux.
Donc écoute, je sais pas. C'est la carte de quelqu'un d'autre que j'ai pris.
Je sais pas. Le sentiment d'adaptabilité, c'est vrai que pour le coup, si on le sort en dehors du fait que c'est vrai que la description était quand même assez négative. Mais c'est vrai que le fait de s'adapter, je pense que c'est aussi le truc de l'indépendant.
T'as
plusieurs casquettes de façon, donc.
C'est tout le temps. Faut tout le temps s'adapter, ouais. Et puis oui, effectivement. Enfin, il y a tout le temps des embûches. Enfin, on a eu. On a le Covid, on peut avoir des augmentations de coûts, des coûts d'électricité, de plein de choses. Enfin, on a un environnement qui n'est pas forcément extrêmement favorable. Ben, on s'adapte. Hein.
De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein.
On n'a pas trop le choix. On s'adapte et on avance.
Ouais, c'est ça.
Il y a toujours moyen. Hein. D'ailleurs, en bateau, il y a aussi toujours à peu près moyen. Si le vent est défavorable, c'est-à-dire un vent de contre, on tire des bords. On va un peu moins vite, mais on avance quand même. Voilà.
Le pire, c'est s'il n'y a pas de vent.
Le pire, c'est s'il n'y a pas de vent. Il faut sortir les rames.
Ouais.
Mais un vent défavorable, on arrive toujours à en faire un truc.
Merci d'avoir participé à ce podcast.
Merci Clément de m'avoir invité à participer à ce podcast.
C'était un plaisir.
Eh bien, partagez.
Tu as aimé l'épisode ? Je t'invite à donner ton avis sur les réseaux sociaux ou sur Apple Podcast et le partager autour de toi. Ça m'aide beaucoup. On se retrouve le mardi 20 juin pour le prochain épisode. Mon invité sera Muriel Gagné, astrologue à la Serre. J'ai hâte de te partager son histoire et son parcours, alors abonne-toi et à la semaine prochaine.